grande matinale, le mag, c'est parti pour une heure de culture et de société. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Charline Vanhoenacker qui mettra son nez dans les municipales, ça promet, avec Daphné Burki et sa nouvelle tête, une autrice québécoise qui a survécu à un crime. Quelle histoire! À 9h30, vous retrouvez le débat du jour. Des enfants ou pas d'enfants dans les wagons de train de la SNCF? Chacun y va de son expérience et de son avis bien tranché. Moi, je poserai la question, faut-il considérer les enfants comme des nuisances? Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia de Villers.
Jacques Bébert s'empare de Cyrano de Bergerac en 1983 sur la scène de Mogador. S'en suivent au bas mot 500 représentations. Weber est aussi de guise dans le film de Rapneau quand son ami Depardieu se mue en Cyrano. Le temps a passé depuis. Weber a joué Tartuffe, l'avare, le misanthrope, Monte-Cristo, du Racine, du Shakespeare, à nouveau Cyrano, du Pagnol, du Labiche, du Tchekhov, du Beckett, et voilà qu'il revient à Cyrano dans un spectacle qui raconte comment ce personnage a traversé la vie de l'acteur, l'a propulsé vers le triomphe, l'a poursuivi, l'a terrassé, l'a habité, l'a aspiré. Enfin, ce spectacle ne raconte pas tout ça, mais le contient, évidemment. Comment voulez-vous qu'à 76 ans, Jacques Weber et Cyrano de Bergerac se tiennent la main sur scène sans se dire et nous dire qu'ils ont tout compris l'un de l'autre? Portrait numéro 79. Bonjour Jacques Weber.
Bonjour, je vous signale que j'ai rien compris toujours. Et comme disait
à Cyrano,
le vieux Socrate, enfin, je vais faire le gars qui connaît un peu des choses. Je sais que je ne sais rien. Voilà, non, j'ai pas toujours compris. Non.
Alors,
en tout cas, son succès.
Rêver, rire, passer commence au théâtre de la Pépinière à Paris jeudi. Demain, couturière. C'est
oui,
ça
oui,
jeudi, voilà. Avec José Pereira, mise en scène Christine Weber.
My woman.
Voilà, ah, votre femme. Dans ce spectacle très épuré, vous dites, à un moment, vous racontez les débuts sur scène, les souvenirs de Mogador, et vous dites, ça m'a frappé, l'aîné de la semaine, quand vous rentrez dans votre loge, sèche sur une serviette. L'aîné de la semaine sèche sur une serviette. Quelle image, l'aîné de la semaine. Je me suis dit, si vous les aviez tous conservés, vous en auriez des camions.
C'est à peu près ce qui s'est passé, puisque j'en ai conservé.
C'est vrai ?
Beaucoup, pour mes enfants, pour tout ça. Et donc, ça fait comme un tapis d'automne. C'est dans une boîte de la chaussure. Hein. Et
donc,
ils sont là. Parce que c'est aîné, ce qu'il faut vous dire, ce qui est amusant, c'est que ça pèse moins d'un gramme. C'était un maquilleur magnifique qui faisait ça, à tel point que je le sentais pas. Et à tel point qu'il m'est arrivé de sortir de scène, aller dans la rue, prendre un café, et puis d'un seul coup... d'un seul coup, il y a des gens
vous
qui disaient...
Vous aviez gardé le nez.
Monsieur, Et j'avais le nez qui était encore là. Voilà.
Je vous cite Jacques Weber... Tout seul, ni lui ni moi ne serons jamais seuls. Même un monologue dialogue avec son ombre. Qu'est-ce que ça signifie, même un monologue dialogue avec son ombre ?
Je crois que la vraie solitude est peut-être une chose auquel on rêve ou on tend, et qu'elle est impossible parce qu'il y a toujours les multiples facettes de vous-même auxquelles vous oblige et le jeu social, et le jeu du métier, et le jeu de l'intimité, et le jeu du général. Nous sommes des milliards de mois, ce n'est pas moi qui disais ça. Je crois que c'était des gens de la psychanalyse. Mais on est vraiment une multitude de mois. Et donc, on n'est jamais littéralement seul. Alors même que l'on voudrait que ces milliards de mois soient un jour concentré, condensé en une seule et même personne.
Et ce nez,
pour se retrouver, tout simplement.
Et ce nez de Cyrano qui fait son identité. Vous dites, il envahit la pièce.
Oui.
Est lui, il est moi, il est nous.
Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'abord de savoir... un jour, j'avais convoqué pour une mise en scène que j'ai faite de Cyrano, un spécialiste de la chirurgie du nez. Et qui nous dit, mais vous savez, d'abord, beaucoup de gens ont dit que le nez était une espèce de symbole phallique, etc. Bon, ça me paraît un peu léger.
C'est un peu court, jeune homme.
Il dit non, c'est d'abord le centre même de l'identité. Le nez est au milieu du visage. Le visage, c'est le premier identifiant d'un individu. Et ça, c'est très très important. Et c'est le nez qui structure l'expression de votre regard et celle de votre voix. Et qui donc marque toutes les émotions. Il est le socle de l'identité, à tel point d'ailleurs que au Moyen-Âge, par exemple, on coupait le nez des voleurs au lieu de leur couper les mains pour les priver d'une identité. Mais c'est ça qui est totalement passionnant dans cette pièce, c'est qu'au moment même où on pense que lui qui n'arrête pas de vous proposer le nez en vous disant « c'est ça mon problème », c'est-à-dire que c'est une symbolique hypertrophiée de l'identité que je vous propose, c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt étant sans doute son identité beaucoup plus mystérieuse derrière ce goût de l'adjectif un peu excessif.
Écoutez Francis Huster, que vous connaissez si bien, Huster.
Oh oui. Hamlet et Cyrano sont des rôles que le public joue en même temps que l'acteur, je dirais même, il précède presque l'acteur. C'est absolument étonnant, c'est-à-dire qu'en même temps, on sent la salle interpréter le rôle. C'est certainement comme la Marseillaise, dont on ne mesure pas le véritable sens quelquefois. C'est la même chose pour Hamlet et Cyrano.
Bon, je l'ai... Non mais ça me fait rire parce qu'entre Francis et moi, c'est extraordinaire. Bon, je pense que la juxtaposition entre Hamlet et Cyrano me semble pas forcément ce qu'on peut dire de enfin,
ça me simplement paraît pas très il juste. Dit que ce sont des
ça
hits.
Paraît pas très juste. Oui, enfin,
c'est-à-dire
alors
que
non.
Probablement
oui et non, parce que Hamlet est beaucoup moins je regrette mais un hit que Cyrano est l'un des grands questionnements, c'est d'ailleurs la petite légitimité que je m'accorde. C'est dit, on peut peut-être reposer une énième fois la question, qu'est-ce qui fait que ce Cyrano de Bergerac, qui est une pièce à l'ancienne, qui est une pièce sur le mode nostalgique, qui est presque une pièce en hommage à un théâtre qui, lui, n'a pas fait avancer l'histoire du théâtre, qui est le théâtre romantique. Victor Hugo, entre autres, aussi génial soit-il, son théâtre ne l'est beaucoup moins que lui-même. Et c'est ça qui est fou, c'est que tout le monde est touché par Cyrano.
Mais vous ne pouvez pas dire, et d'ailleurs vous le racontez dans la pièce, exactement ce que raconte Francis Huster. C'est-à-dire que quand on commence la tirade du nez, le public la connaît par cœur, et le public la murmure,
mais
la récite,
tout,
la
fraude.
Pas du tout.
Oui, pas du tout de la même façon que quelqu'un qui connaîtrait Hamlet. Je vous mets au défi.
Non,
si vous faites comment vous appelez un micro-trottoir, vous faites beaucoup maintenant. Et ce qui est extrêmement dangereux d'ailleurs. Vous entendrez des gens qui, en effet, vous diront « Ah non, c'est un peu court, jeune homme, etc. » Bon, puis ça s'arrêtera assez vite. Quant à Hamlet, ils diront « Ah, c'est le nouveau film qui vient de sortir. » Non, le nouveau film qui vient de sortir, c'est ça, Hamlet. Enfin bref, voilà, c'est ça. Mais je ne pense pas. C'est comme ça.
Alors écoutez Jean-Pierre.
Ah, c'en est un autre. Bah, c'est lui qui m'a donné envie de faire du théâtre avec Robert Hirsch.
C'est vrai. C'est Jean-Pierre ?
Oui, dans Cyrano, ouais, c'était incroyable.
À la Comédie Française ?
Oui, je faisais la queue le dimanche matin pour aller au paradis. C'était joli, aller au paradis.
Oui, c'est joli.
Il n'y avait qu'un franc 50, c'était bien pour le
paradis. Un franc 50, le paradis ?
Oui.
Écoutez, Jean-Pierre, on a vraiment la sensation que Jean-Pierre parle de vous, Jacques Weber, aujourd'hui. J'en étais même stupéfaite.
Même quand on a vieilli, on a toujours un peu envie de rejouer ce qu'on a joué 30 ou 40 ans auparavant, comme une espèce d'adieu ultime à un vieux copain qu'on ne reverra plus. Bon, on peut plus jouer ça, mais on peut peut-être encore jouer ça en blaguant sur la vieillesse. Moi, j'ai très envie de faire une espèce d'arrangement comme ça de Cyrano, mais en blaguant sur la vieillesse.
Alors ça, c'est étonnant. Ah oui,
bravo. Bien eu, là.
Oui, parce que je confonds cette façon dont il a un peu excessif de dire quoi, qu'est-ce qu'il a mon nez, qu'est-ce que c'est, de poser le problème de son rapport avec les autres en fixant le nez, avec le mien qui est nouveau, c'est au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, le fameux bouquin de Romain Gary, l'âge qui vient d'un seul coup. Et c'est vrai que cette conscience, qui n'est pas une conscience pénible, qui est une conscience méditative, arrive assez brutalement dans les épaules d'un coup. Ça marche, ça va, tout va bien. Et puis d'un seul coup, et merde, il ne reste plus un temps énorme, il faut bien le dire. Et c'est tâche qui condamne beaucoup, beaucoup de choses, mais qui en ouvre d'autres, entre autres la contemplation, eh bien ça, c'est une des choses qui rôde, pas que je fais rôder dans le spectacle qui est là. Ça n'empêche pas d'être drôle. Hein.
Ça signifie que vous n'avez plus l'âge de jouer Cyrano ?
Comment ? Non, mais bien évidemment, et ce qu'il dit est très très juste, c'est quand je vois les images de moi à 33 ans et maintenant 76, c'est évident que je ne peux plus le jouer à tous les niveaux, au niveau de la crédibilité, au niveau du moyen physique. S'il fallait que je joue là, c'est un spectacle qui dure 1h20, qui est très serré, mais et dans un cadre intime, on en reparlera. Mais s'il fallait que je le joue en entier à Mogador, dans sa version telle qu'elle est écrite, je n'en ai pas les moyens physiques, ne serait-ce que physiques. Mmh. C'est tout. Ça fait suer, pour pas dire autre chose.
Mais en même temps, est-ce que vous auriez envie de rejouer le Cyrano que vous avez joué à 33 ans ? Est-ce que vous auriez envie de pousser la voix, d'être tonitruant ? Est-ce que vous auriez envie d'être flamboyant ? Est-ce qu'à force de jouer Cyrano, de le connaître, d'entretenir ce compagnonnage ?
Il est extrêmement dangereux de vouloir rester flamboyant, voire d'être un clairon à nos âges. Je crois que chaque âge amène sa force, son énergie, sa réflexion, son rapport au monde. Il y avait, à 33 ans chez moi, une forme de naïveté extrêmement espiègle, comme ça. Je fonçais dans un truc avec une énergie, en effet, assez débordante. Je crois qu'il faut faire... Je me méfie beaucoup des chanteurs qui veulent rester jeunes. Ça me fait toujours très, très peur. Parce que ça ne marche pas. On ne peut pas faire le jeune quand on est vieux. Et l'autre problème du vieil acteur, c'est que souvent les acteurs jouent vieux parce qu'ils ont peur de ne pas être assez vieux pour jouer un vieil homme. C'est complètement étonnant ce rapport avec l'âge. Et non, je n'aimerais pas retrouver ça. Et justement, si je fais ça maintenant, c'est tenter de proposer tout à fait autre chose, entre autres une sorte d'apaisement, de tranquillité, de main en bas, comme disaient les grands professeurs de théâtre.
Vous avez joué 500 fois Cyrano, ça signifie, Jacques Weber, que vous êtes mort 500 fois.
Oh, vous avez pris un temps qui m'a fait peur. Ça signifie, Jacques Weber, que vous êtes mort.
Un, deux, 500 fois. Ah, je fais mon Malraux, moi aussi. Hein. Allez, Depardieu.
Ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est... mon panache.
Qu'est-ce que vous pourriez dire de la mort de Cyrano ?
Alors, c'est très troublant, naturellement, c'est... On est tous très très émus, très bouleversés. C'est merveilleusement écrit, c'est du grand opéra. Ça se siffle en chantant à la sortie. C'est Rossini, c'est Verdi, c'est plus Verdi qu'on signe. Mais il y a quand même un fait étrange. Et c'est là où moi ça m'intéresse aussi, c'est que ce personnage, pendant un acte entier, ne fait que se plaindre lui devant une femme qui est sa victime. Le pacte faustien qu'a signé Cyrano avec Christian, « Je serai ton esprit, tu seras ma beauté », c'est ce qui a condamné définitivement Roxane, finalement, au couvent. Il arrive chez cette femme, il ne parle que de son propre malheur. Pas une seconde, il se préoccupe de ce qu'est devenue vraiment cette femme.
Et qui a été trompée, qui a été mystifiée.
Ben oui, qui a été mystifiée, qui a été trompée, qui a été portée au nu, alors qu'en même temps, il dit à un moment donné, lorsqu'il fait l'échange, il dit, vous savez, quand il dit à Christian, allez, donne-moi ta beauté, je te donne mon esprit.
J'en ai parlé longuement avec Benjamin Duhamel, qui a une passion absolue, pour vous et pour cette pièce ce matin, dans le bureau, et lui me dit, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je pense exactement la même chose que vous, je pense qu'aujourd'hui, on n'écrirait jamais le personnage de Roxane comme ça.
Qui a été
l'objet entre deux hommes.
Absolument.
Et Benjamin me dit, elle est consciente, elle sait, elle se doute, c'est le non-dit de toute la pièce, elle a compris.
Il faudra qu'il m'explique. Il faudra qu'il explique ça dans le programme. Je ne vois pas où elle l'a compris. Et surtout, il y a une chose qui est hallucinante. Mais ça peut se discuter. Mmh. C'est une proposition intéressante, bien évidemment. Mais moi, ce qui m'importe, c'est lorsqu'il propose cette lettre qui démarre leur pacte, qui le scelle définitivement. Il dit, tais-toi, la crédulité de l'amour propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Je pose une simple question, est-ce que ça, c'est une parole d'amour ? Je ne crois pas, c'est une duperie organisée. Donc vraiment, je trouve ce personnage parfois très très, paradoxal. Et le rapport à la femme dans l'œuvre de Cyrano est particulier. Quoi. Il peut se discuter maintenant. Il m'empêche sonner, il m'empêche même d'être aimé, même par une laide. C'est pas d'une folle élégance, je trouve. Voilà. Non.
Vous avez été, il y a quelques années, Jacques Weber, frappé par un méchant cancer. Vous l'avez raconté. Et puis, vous avez écrit un livre dont le titre est le suivant. « On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. » Et je me suis dit, c'est l'histoire de Cyrano qui n'a pas pu dire « je t'aime » à la femme qu'il aimait.
Oui.
C'est-à-dire que vous, vous réchappez à un cancer, vous gardez la vie, vous auriez pu en mourir, et vous vous dites... Il faut dire aux gens qu'on les aime. Il faut les regarder dans le blanc des yeux et leur dire pour de vrai.
Je suis troublé par ce que vous êtes en train de me dire. D'abord, j'ai envie de dire que j'espère pour tout le monde qu'il n'ait pas besoin d'un cancer pour pouvoir se rendre compte de cette évidence. Quoi. C'est que à partir du moment où vous dites « je t'aime » à quelqu'un, forcément, il y a quelque chose qui s'ouvre chez ce quelqu'un. Et cette ouverture partagée, c'est ce qui crée l'humanité et la fraternité, ce dont on manque tant en ce moment. Le monde ne dit plus « je t'aime », il dit « je te hais ». C'est quand même épouvantable, cette grande transformation. Alors, ce n'est pas du Védrine, c'est pas une analyse politique que je suis en train de faire. Et Dieu sait si c'est brillant, mais je préfère me taire par rapport à cette compétence qu'il a et que je n'ai pas. Mais par contre, ce que je constate, c'est cet immense flot de haine, de marée noire, au sens propre et figuré, qui nous envahit tous, lors même que nous avions... avec plus ou moins de bonheur, mais construit un large chemin pour maintenir liberté, égalité, fraternité. En ce moment, le chemin s'ouvre de plus en plus pour le détruire. Et il faut bien se dire une chose, c'est que ce qui se passe aux États-Unis n'est pas à 5000 kilomètres, il est à 2 centimètres de nos frontières. Qu'est-ce que nos frontières, si ce n'est que les élections futures qui nous attendent et qui sont extrêmement poisseuses, dangereuses et terribles, quoi. Voilà. Pardon, ça n'a rien à voir avec Cyrano.
C'est pas
mais si, si, parce que lui, c'est un rebelle. Pardon, ça y est, je m'emporte.
Non.
Ma femme m'a dit, reste calme et surtout ne t'emporte pas.
Non, c'est exactement la question que j'allais vous poser. Mm-hmm. C'est-à-dire, est-ce que Cyrano est une pièce politique ?
De toute façon, elle l'est. Elle l'est d'ailleurs à double sens. Elle l'est dans le sens qu'elle est quand même passéiste et profil de quelque chose de plutôt de l'ordre d'un... un ordre bourgeois établi, quoi. Mais en même temps, elle met en scène, un peu à la manière de Molière, qui était un auteur précieux, ne l'oublions pas, et qui met en scène Alceste, et qui met en scène des rebelles dont on a besoin, ou alors la loi dont on a besoin, transgressif, qui est par exemple Don Juan. Et je crois que Cyrano, oui, cette fameuse tirade de non merci est formidable. Non merci, non à la compromission, non au paraître définitif qui nous fait sans arrêt, dans lequel on plonge. Et il dit « mais chanter, rêver ». Et bon, là, bien sûr, c'est une finalité romantique dans laquelle on peut réfléchir. « Mais chanter, rêver, rire, rire, ça c'est beau. C'est musclé, le rire. » Et jusqu'après ce muscle du rire, il dit « passer, être seul, être libre ». C'est formidable. Le problème, c'est que comme Alceste, il se compromet. Alceste avec un amour qui n'a rien à voir avec ce qu'il aime, et lui avec le pacte faustien avec Christian.
C'était Jacques Weber. Rêver, rire, passer. Passer, vous venez de le dire, dans la tirade des noms merci, au théâtre de la Pépinière. Et ça commence jeudi. Le voilà, seul avec son Cyrano, les yeux dans les yeux, avec le public. courez au théâtre. Merci Jacques Weber d'être venu.
Mais écoutez, tous les matins France Inter, ils sont tous formidables. Ils sont en danger. Faites attention, surtout, faites gaffe à vos votes.
Elle reviendra à la tombée du jour. Je mettrai mes gants blancs. C'est mon style différent de tous les autres. Hey, ça lui plaît. Et nous danserons cha cha cha.
Les succès fous de Christophe, on était en 1983, et là évidemment vous êtes au cœur du mag de la grande matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h, à 9h45, Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter, est-ce que vous savez combien ça coûte d'organiser les municipales ?
Non.
193 millions à l'État, ah. C'est 42 millions de plus qu'en 2020, et à ce prix-là on va voter, non ?
Au moins. Daphné Bourqui.
J'avais pas pensé comme ça. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui je vous présente ma nouvelle tête, c'est un nouveau roman, ça se passera à 9h50, elle s'appelle Geneviève Rioux, c'est une miraculée, on a tenté de la tuer tout simplement, mm-hmm. Et elle a survécu, elle a écrit ce roman qui est absolument dément, et je suis ravie de vous la présenter.
Et ben voilà, il est 9h29 sur France Inter, c'est l'heure du débat du jour.
Petit monstre,
vous n'allez pas les calmer?
Qu'est-ce que tu fais avec ça? Taisez-vous ! Taisez-vous !
Depuis les wagons sans enfants de la SNCF, les discussions vont bon train, si vous me permettez ce jeu de mots. Pour les uns, on a droit à la tranquillité quand on en paye le prix. Pour les autres, on en arrive à des extrémités d'égoïsme et de chacun pour soi. Oui, mais les enfants, ça fait souvent du bruit, il faut l'admettre. En font-ils plus qu'avant ? C'est la question qui fâche. Avons-nous fabriqué des enfants insupportables ? Ou avons-nous surtout fabriqué une société plus intolérante que jamais ?
France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers.
Et j'ai le plaisir d'en débattre avec Lénaïc Stéphens. Bonjour.
Bonjour.
C'est comme
Sonia
ça qu'on prononce le Stéphens.
Oui, tout à fait.
Stéphens. Voilà. Psychologue pour enfants, spécialisée dans les questions de parentalité. Et face à vous, Joëlle Sicamois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la Fondation pour l'enfance. Lénaïc Stéphens, on commence avec vous ce week-end dans le Figaro. La psychologue Caroline Goldman a expliqué on fabrique des enfants insupportables pour autrui. On s'étonne ensuite de voir émerger une économie entière organisée autour de leur mise à l'écart. Est-ce que vous partagez l'analyse de votre consoeur ?
Oui, bien sûr, je partage tout à fait l'analyse de Caroline Goldman. Et je pense que beaucoup de professeurs, médecins, collègues, psychologues pensent tout à fait la même chose que moi. Mm-hmm. On observe vraiment des incivilités grandissantes des familles. Et d'ailleurs, tous nos motifs de consultation explosent depuis une quinzaine d'années. Où autour des troubles du comportement, de l'agressivité, des difficultés des enfants de se plier aux règles du monde. Donc,
des enfants plus explosifs, disait-elle dans cette explication
plus transgressifs, du Figaro.
Soumis à des pulsions.
Ouais, plus pulsionnels, exactement.
Voilà. Donc ça se manifeste comment concrètement dans un wagon de train, à peu près comme l'extrait de cinéma que je viens de vous
présenter. Exactement, à peu près, mais je pense que tous nos auditeurs savent exactement comment ça se passe dans un wagon quand un enfant semble appeler les limites et que les parents ne parviennent pas à lui donner. Alors dans un train, c'est un petit peu particulier. Je dirais que ce qui se passe dans cette histoire de train No Kids, c'est surtout un très bon indice de ce qui se passe dans toute la France et dans toutes les familles. Comme je vous disais, il y a vraiment une explosion des motifs.
Mais il y a aussi une explosion des offres des hôtels, des restaurants. Hier, par exemple, ça m'est arrivé complètement par hasard, j'ai voulu réserver dans un restaurant et je me suis aperçue qu'on ne prenait pas les enfants en dessous de 13 ans.
Est-ce que vous avez passé une bonne soirée?
C'est pour le week-end prochain, et voilà, mais je me suis dit, mais est-ce que c'est une réaction en réalité utile et nécessaire face à un climat général, c'est-à-dire en réalité une plus grande difficulté de vivre aux côtés de familles?
Je ne peux pas vous dire si c'est une bonne réaction, dans le sens où je ne peux pas commenter les choix.
En tout cas, inévitable.
Voilà. En tout cas, je pense qu'on alerte depuis des dizaines d'années quand même sur ces enfants-là qui sont ce qu'on appelle mal limités, c'est-à-dire qui appellent les limites éducatives et à qui on ne donne pas ces limites-là. Donc, c'est la conséquence directe. À dire si c'est bon ou pas bon, je pense qu'il y a beaucoup d'autres paramètres que je ne maîtrise pas. Et voilà, moi, je vous parle surtout de ce que moi, je maîtrise et du fait que les enfants, vraiment, aujourd'hui, appellent les limites, on ne leur donne pas et donc, ils continuent de les appeler de plus en plus fort.
Joël Sikawa vous répond. On en revient à la SNCF. On pouvait lire dans le justificatif publicitaire de cette classe Optimum, pour garantir un maximum de confort à bord de l'espace dédié, les enfants ne sont pas acceptés. Puis dans un second temps, la SNCF a supprimé cette phrase et cet argument du confort. Oui. Pour vous, cet argument du confort, il est délétère?
Il est inacceptable pour nous. C'est-à-dire que on peut entendre tout à fait qu'il y ait des personnes dans le train qui aient besoin de travailler, qui aient besoin de calme. Aucun problème là-dessus. En revanche, c'est la façon de présenter les choses. La façon de présenter les choses, c'est dire, les enfants dérangent. On ne veut pas les voir, il faut les effacer, il faut presque les invisibiliser. Et que la SNCF rentre dans ce schéma-là, comme d'autres, vous parliez tout à l'heure d'un restaurant, mais on en a parlé beaucoup, des espaces No Kids qui se multiplient actuellement. En fait, on est en train d'essayer de faire taire toute une partie de la population, nos enfants, alors qu'ils ont le droit d'être là. Faut pas oublier que les enfants, c'est pas seulement les adultes de demain. C'est des enfants qui ont des droits aujourd'hui, qui ont le droit d'être dans notre société. Et si on les intègre pas dans notre société, ça va faire des adultes qui seront incapables de fonctionner avec notre démocratie.
Donc pour vous, l'idée que la vie sans enfant est qualifiée de confortable, et ça signifie que l'enfant est une nuisance, et pour vous, ça nourrit une vision de l'enfant très négative et des stéréotypes négatifs.
Ça continue à les nourrir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vision qu'on a de l'enfant dans notre société, elle est nourrie de ça, c'est-à-dire que les enfants sont manipulateurs, sont bruyants, ils sont menteurs, et en fait, l'éducation a longtemps été pensée comme un processus qui devait viser à changer ça, à les faire devenir des adultes, à les faire fonctionner le plus rapidement comme des adultes. Or, les enfants ont le droit de vivre comme des enfants, et ils ne peuvent pas fonctionner comme des adultes, c'est absolument impossible, surtout les petits, faire taire des enfants, enfin je pense que tous les parents qui ont été dans des trains avec des enfants qui avaient entre 1 an et demi et 6 ans, savent à quel point c'est difficile. La question, c'est pas de dire, faut les laisser hurler dans un train et gêner tout le monde. La question, c'est de dire, comment je réagis face à ça? Bien sûr qu'on peut le sortir du wagon, mais on va pas le sortir en lui disant, tu déranges tout le monde, tais-toi, chut. Non, on va le sortir en lui disant, je comprends, c'est très difficile, c'est long, tu en as marre, tu peux pas rester assis aussi longtemps, viens, on va se promener un petit peu dans le wagon, on va essayer de voir d'autres wagons pour lui changer les idées. Il est tout à fait normal que les enfants réagissent de cette façon. Il s'agit pour le parent de poser en effet des limites, de poser un cadre, mais c'est la façon de le poser, ce cadre, qui est très important.
Lénaïque Stéphane, donc je rappelle que vous êtes psychologue et spécialisée dans ces questions de parentalité. L'idée qu'on nourrit des stéréotypes extrêmement négatifs et une vision très négative de l'enfance en général, vous répondez quoi à cela ?
Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'au contraire, les enfants sont globalement assez bien accueillis dans notre société. Il suffit de se promener 5 minutes avec des enfants pour voir un peu l'émerveillement qu'ils suscitent chez les gens, chez tous les Français en général. Hein. Je pense que si les gens aujourd'hui, si les Français aujourd'hui pensent ça, c'est parce qu'ils ont expérimenté à plusieurs reprises la difficulté d'être en présence d'enfants qui sont pour la plupart transgressifs, etc. Je suis complètement d'accord avec vous qu'il y a une différence entre parler dans un train et crier pour exiger de sortir, etc. On est complètement d'accord là-dessus, et il ne s'est jamais agi de dire à un enfant « tu sors de là, il y en a marre », etc. On est, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Moi, je parle vraiment de notre clinique, quoi, de ce qu'on rencontre au quotidien, dans le cœur de nos consultations et des confidences de nos consultations, et on voit ces enfants-là qui sont...
Donc pour vous, le problème, c'est pas les enfants, c'est les parents, en fait.
C'est jamais, jamais le problème des enfants. Ce n'est jamais la faute des enfants. C'est toujours en lien avec ce que les parents mettent en place à la maison.
Sauf que vous voyez bien que l'argument publicitaire, c'est que c'est pas un wagon interdit aux mauvais parents, c'est un wagon interdit aux mauvais enfants. Oui. Ça vous fait rire, Joël Sicamois.
Oui, non, mais parce que les parents, aujourd'hui, effectivement, reçoivent des injonctions complètement contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on leur dit il faut plus écouter vos enfants, il faut être à l'écoute de leurs besoins, et d'un autre, on leur dit maintenant, il faut plus d'autorité, c'est pas supportable, la façon dont les choses se passent. Et en fait, ils sont face à tout ça, et ils savent plus quoi faire. Et la seule chose qui est valorisée dans notre société, ce sont les enfants sages. Oh, il est super ce petit, mais qu'est-ce qu'il est sage. Non, c'est pas ça qu'on recherche dans une éducation. Bien sûr qu'il faut de
ça
la
veut
sécurité.
Dire sage, ça veut dire docile, mais ça oui. veut dire silencieux,
un
ça
enfant,
veut dire on
l'éduque,
ça
un
veut
enfant, dire... on l'éduque pour qu'il soit intelligent, pour qu'il soit capable de vivre en société, de faire fonctionner notre démocratie, de dialoguer avec les autres. C'est ça qu'on veut apprendre à un enfant. On ne veut pas lui apprendre à se taire, parce que si on lui apprend à se taire dès tout petit, faut pas s'étonner qu'après, on ait du mal à avoir des dialogues apaisés et sereins.
Je pense que justement, pour avoir des dialogues apaisés et sereins, il faut que l'enfant puisse se taire un petit peu. C'est-à-dire qu'un enfant ne naît pas sage, comme il ne naît pas désobéissant, c'est l'éducation qui le rend sage et qui le rend adapté à la vie sociale. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les enfants, comme ils ne reçoivent pas ce cadre, ils n'ont pas conscience de ça, parce que les parents ne leur apprennent pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi dans deux minutes. La confrontation avec le réel est très violente pour eux. Quand ils sont dans un groupe classe, dans une salle d'attente, dans un train, il est très compliqué pour eux de s'adapter aux règles sociales.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ces parents trop mous ?
Ces parents trop mous, déjà, ne savent pas de quoi a besoin un enfant. Ils ne savent pas deux choses principales. Le premier besoin d'un enfant, qui est l'amour, qui commence dès les premiers instants de la vie pour toute la vie. Et le deuxième besoin de l'enfant, qui est celui des limites. À partir de 18 mois, l'enfant, quand il va explorer le monde, va appeler les limites éducatives. Si on ne lui donne pas ces limites dont il a besoin dès 18 mois, toute sa vie, il va continuer à les appeler. Jusqu'à temps qu'il rencontre le chemin d'une...
Pardon, mais ça n'empêche pas d'aimer un enfant.
Ah bah non, pas du tout.
Parfois, on peut foirer complètement l'éducation d'un enfant et l'aimer.
Bien sûr.
Vous commencez par dire... Non, le premier besoin, c'est l'amour. On ne peut pas disqualifier les parents qui éduquent mal en disant d'emblée ils n'aiment pas assez leurs enfants.
Non, pas du tout.
C'est ça.
Ce que je veux vous dire, c'est que la première chose à faire avec nos enfants, c'est leur donner de l'amour. C'est,
voilà,
c'est le premier chantier éducatif. Et
quel que
après,
soit le mode d'éducation,
mais bien sûr. Ouais. Là, quand les enfants sont tout petits, on ne parle pas du tout d'éducation. Quand ils viennent de naître, on leur donne juste de l'amour, de la tendresse. À partir de 18 mois, 2 ans, les enfants ont un autre besoin qui jaillit, celui de l'amour reste présent, qui est celui des limites éducatives. Et c'est à ce moment-là que la parole du parent doit rencontrer la réalité de l'enfant. Et à ce moment-là, le parent apprend à l'enfant à être sage, à écouter l'adulte, à se concentrer, à accepter les réalités de la vie sociale.
Donc tout un tas de structures, de réflexes, de repères, de marqueurs qu'on a perdu avec ce qu'on a appelé l'éducation positive, c'est ça et c'est dérivé.
Exactement, donc les parents ne savent pas comment être parents, c'est très compliqué d'être parent. Mais comme ils ne savent pas, ils regardent sur Internet. Et quand on regarde sur Internet aujourd'hui, quand on tape éducation, les premières choses qui arrivent sont les préceptes de l'éducation exclusivement positive à la française, qui fait croire qu'interdire va abîmer le cerveau des enfants, qu'il est très difficile d'interdire, qu'il ne faut pas crier sur un enfant. Évidemment qu'il ne faut pas crier sur un enfant, mais que si on lui crie une fois dessus, il va être traumatisé, etc. Et donc, les parents, puisqu'ils ne s'autorisent pas, à donner des limites parce qu'ils sont perdus dans toutes ces injonctions, en viennent à eux-mêmes être violents avec leurs enfants et finalement leur crier dessus, etc. C'est là qu'ils arrivent dans nos cabinets.
Oui, là où je peux vous rejoindre, c'est en effet le fait que les parents auraient besoin d'être davantage accompagnés, et là j'en appelle à nos politiques publiques, sur la question des besoins fondamentaux des enfants. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'on puisse bénéficier de 6 cours de préparation à l'accouchement et que dans aucun de ces cours, il y ait au moins un seul qui soit dédié à « mais finalement votre enfant, dans les premières semaines, dans les premiers mois,
c'est vrai, ça.
il a besoin de quoi ?
C'est vrai.
Comment son cerveau va se développer ? De quoi il va avoir besoin ? Quelle attention il faut lui donner ? Comment il va dormir ? Tout ça, il n'y a rien qui est expliqué aux parents. Donc en effet, les parents, ils vont chercher l'information là où elle est. Donc ces besoins-là, il faut les rappeler. Ensuite, chacun fait ses choix éducatifs. En revanche, il y a une chose, et j'en reviens quand même à cette recherche permanente d'obéissance. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a encore 80% des parents qui pratiquent des violences éducatives ordinaires sur leurs enfants. Pourquoi ? Aussi parce qu'il y a cette recherche d'obéissance et que, comme on a du mal...
Qu'est-ce que c'est qu'une violence éducative ordinaire ?
Alors, il y a les violences physiques, ça je pense que tout le monde comprend, les fessées, les gifles, mais il y a aussi les violences psychologiques, se moquer de son enfant, nier son émotion, ne pas lui donner de l'affection, en effet il y a aussi ça exactement. Les violences verbales, lui crier dessus, l'injurier, c'est des choses qui ont des effets délétères sur le développement des enfants et qui ont des impacts à court, moyen et très long terme sur les enfants. Des enfants qui vivent ça au quotidien quasiment, franchement, sincèrement, ça ne va pas être des adultes qui vont fonctionner correctement et qui vont être en capacité de s'intégrer correctement dans notre société. Donc, c'est pour ça que le cadre, mais personne, en tout cas dans l'éducation sans violence, parlons d'éducation sans violence, le cadre est une des premières choses qu'on rappelle. Le besoin de sécurité de l'enfant, il est là. Bien sûr qu'il faut pouvoir dire non à un enfant. La question, c'est en effet simplement de lui expliquer pourquoi on lui dit non et d'accepter qu'à ce moment-là, il puisse dire « je ne suis pas d'accord », mais à toute fin, c'est le parent qui a la responsabilité de décider.
Et bien là-dessus, je crois que j'ai réussi à vous mettre d'accord, ce qui est une bonne nouvelle. Je vous remercie beaucoup toutes les deux, Lenaïck Stephens et Joël Sicamois de la Fondation pour l'Enfance. Merci d'avoir débattu de cette question sur France Inter.
Merci à vous.
Et puis là, on écoute Wet Leg avec une balade extraite du dernier album de ces rockeuses britanniques, choisie par notre programmatrice musicale Valentine Chédebois. Davina McCall, vous entendez comme c'est beau, c'est Wet Leg, voilà, en playlist sur France Inter. Eh bien, il est 9h45, autour de la table, il y a Charline Vanhoenacker, forcément, il y a Daphné Burki, évidemment, il y a la nouvelle tête de Daphné Burki qui est en train de s'installer, on l'entend. Allez Charline, on commence avec vous, l'organisation des élections municipales coûte beaucoup plus cher qu'en 2020.
Oui. Ah bon ? L'organisation des élections municipales coûte environ 250 millions d'euros, dont 193 millions à l'État. Mmh. C'est 42 millions de plus qu'en 2020. Donc, vu le pognon que coûte une élection, Si cette fois-ci, vous pouviez tenir compte du résultat. Ça coûte de plus en plus cher, alors qu'il y a de moins en moins de Français qui votent. Un scrutin électoral, c'est vraiment l'endroit où le concept de l'offre et la demande est totalement revisité.
C'est vrai.
Donc les municipales, c'est 42 millions de plus qu'en 2020, ça c'est ouf. Non, mais à ce prix-là, dans les isoloirs, les rideaux sont cousus main. Mais soyez gentils de prévenir la mairie si vous allez voter, quoi, qu'ils puissent valider les devis pour les urnes. On en achète une ou deux. Modèle en plexi ou sapin des Vosges. J'espère qu'ils recyclent le matos de la précédente élection. Ou alors, il y a vraiment que les candidats qui sont recyclés. Claquer tout ce pognon pour élire un maire qui va passer tout son mandat à expliquer qu'il n'y a plus un rond dans la caisse pour faire quoi que ce soit, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? En moyenne, la facture s'élève à 44 euros par bureau de vote et 10 centimes par électeur inscrit. Dans les petites mairies, ça met tout le monde à cran. Hein. Bonjour, je viens pour voter. Ah bah allez ! Ah bah ça se voit que c'est pas avec votre argent ! Ce qui coûte cher aussi, c'est les professions de foi qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres. Ouais. Vous savez bien, ces prospectus un petit peu comme ceux qui proposent des promotions sur les pizzas. Voilà, voilà, c'est pareil qu'à la place d'une 4 fromages, c'est Sarah Knafo, vous voyez, par exemple. Eh ben, j'ai reçu ceux de Rachida Dati. Ils sont beaux, ils sont en lettres d'or, 14 carats, comme ça. Bien pliés en origami, eh ben, ça fait des très jolies boucles d'oreilles. Moi, je les ai récupérés dans la poubelle de mon immeuble, et alors c'est histoire vraie, en plus. Mes voisins, ils ont tout balancé. Alors, je les ai récupérés. Bah, sinon, les enfants de l'immeuble, ils s'amusent à dessiner une petite moustache sur la tête des candidats. Mmh. Ne faites pas ça, c'est mal. Mmh. Alors, ce qui a doublé aussi, c'est l'acheminement de la propagande électorale par la poste. Donc là, j'estime, là, à ce prix-là, franchement, que c'est le facteur qui doit me lire le programme des candidats à voix haute quand il m'apporte le courrier, quand même. Et alors, il y a des frais de sécurité des candidats aussi. Et ouais, donc arrêtez de menacer les élus, parce qu'après c'est avec nos impôts, ok ? Et puis il y a la réforme du mode de scrutin. À Lyon, Paris, Marseille, on votera deux fois, pour l'arrondissement et puis pour le grand conseil municipal. Donc dans ces trois villes, on va doubler le nombre d'isoloirs. Hein, deux fois plus d'isoloirs, c'est la possibilité pour les électeurs de deux fois plus s'abstenir. Donc il y a des endroits où il faudra voter une fois dans une salle de classe, puis une fois au gymnase. Et dans ce cas, la mairie a embauché des gens pour orienter les électeurs. Et la démocratie, ça ressemble de plus en plus à un escape game. Moi, je me sens très concernée, car étant ressortissante européenne, je vais pouvoir voter au municipal. Et vous savez, moi, je suis très soucieuse de la bonne utilisation de l'argent public. Je ne rigole pas avec l'argent des Français. Enfin, si, mais bon, vous avez un peu compris. Voilà, voilà. Mais donc, quand on voit ce que coûte la démocratie, on est tenté de se rappeler que le pouvoir au peuple, ça reste un produit de luxe. Alors profitons-en, il reste 10 jours pour s'inscrire.
Et nous, pendant ce temps-là, on paye des humoristes pour vous en parler. Charline Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
À ma droite, Daphné Burki. À ma gauche, sa nouvelle tête.
Et oui, il est 9h49, nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Geneviève Rioux. Elle est écrivaine, poète, doctorante en psychologie et elle nous vient du Québec. À 26 ans, elle survit à une tentative de viol et de féminicide. Laissée pour morte, elle vit. Aujourd'hui, elle transforme ce que la violence voulait réduire au silence en littérature. Son premier roman s'appelle « Même pas morte », un titre comme un défi et une question immense. Que fait-on de la survie quand on refuse que la peur écrive la fin de l'histoire ? Bonjour Geneviève Rioux, bienvenue sur France Inter.
Enchantée Daphné, merci de l'invitation.
Merci d'avoir accepté cette invitation, parce que j'imagine depuis la sortie de roman il y a quelques semaines, le fait d'en parler souvent, de se replonger dans cette histoire, ça peut être un peu éprouvant.
C'est éprouvant, mais en même temps, c'est devenu une histoire. J'en ai fait quelque chose d'autre que le drame à son premier jour. Puis c'est ça qui compte pour moi, c'est de transporter avec moi cette histoire-là, la faire porter à d'autres personnes, montrer qu'on peut être survivante au-delà d'être victime d'un crime comme ça. Puis ça, je trouve que ça redonne beaucoup de pouvoir sur sa vie. On décide d'en faire ce qu'on veut, finalement.
On va la raconter, cette vie. Ce roman, il est particulièrement ouais. bien accueilli au Québec et je comprends pourquoi vous commencez votre tournée en France et il est important, ce premier roman. Il s'ouvre sur cette phrase « Qui meurt au moment de tuer ?» Est-ce que le livre, il est né de cette question-là, finalement ?
Oui, tout à fait. Je l'ai porté tout au long de l'écriture, cette question-là. « Qui meurt au moment de tuer ?» Pour moi, c'est une tentative de meurtre qui est ratée, c'est la posture du livre. Il y a un certain mépris, on s'adresse à l'agresseur, mais tout le long du livre, on sent que c'est raté, quoi, qu'elle se relève de ça, qu'elle va de l'avant. Puis on se met à comprendre que c'est l'agresseur qui est perdant de tout ça. C'est Steph qui a gagné à la vie, là, Steph, le personnage principal.
Stéphanie, on va en parler de ce livre, on va en parler de Stéphanie, mais il faut dire ce qui vous est réellement arrivé. Et si vous nous écoutez en ce moment, peut-être éloignez les enfants du poste de radio quelques minutes. Nous sommes dans la nuit du 7 au 8 avril 2018. Vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé, vous vous couchez. Et en pleine nuit, un homme s'introduit dans votre appartement pendant que vous dormez. Il tente de vous violer, de vous tuer. Il vous porte 18 coups de couteau, il vous étrangle et il vous laisse pour morte. Et pourtant, vous luttez, vous parvenez à appeler les secours. Et aujourd'hui, vous survivez. Dans ce roman, nous sommes en 2016. Et en effet, votre personnage s'appelle Stéphanie. Et l'agresseur, lui, vous le nommez Toé. Même pas morte, c'est pas un témoignage, vous l'avez compris. C'est un roman, c'est une fiction. Qu'est-ce qui vous a décidé à raconter cette histoire sous forme de fiction ?
Donc, il y a des rapprochements entre ce que j'ai vécu, ce que Steph a vécu aussi. On part du même crime, la tentative de viol, de meurtre. La lutte, effectivement, c'est ça qui va traverser le roman. Il y a une lutte tout au long. On veut retrouver qui a fait ça parce que l'agresseur est masqué dans les deux cas. Et pour ma part, ben, j'ai pas obtenu justice par le système. Donc, l'écriture est venue comme une justice alternative. Ce qu'on a besoin comme victime, c'est d'être entendu, d'être cru. Et la littérature permet ça. Permet de transmettre des émotions qui sont fortes, même par la fiction, on transmet toutes sortes de messages.
Vous allez nous lire un passage du roman. C'est au début, on a vu ce qui vous est arrivé, et c'est le moment où la mère de Stéphanie, le personnage, est appelée pour venir la retrouver à l'hôpital.
Sa mère se présente à l'hôpital. Enfin, après la route interminable et sans réponse. José croyait pouvoir ramener Steph à la maison avant d'être renseignée sur sa tragédie. Elle entre dans la chambre. La travailleuse sociale leur laisse l'espace pour se retrouver. José regarde longuement sa fille. « Oh, Stéphanie. Maman. Oh, Stéphanie. Ma, je t'envie. » Sa mère, témoin des lacérations fraîches sur sa figure poignardée. Steph aperçoit la détresse dans ses yeux maternels, sa désolation et son calme malgré tout. Elle peut à peine imaginer la pointe de son impuissance, la crainte de son épouvante et tout son amour. Elles restent toutes les deux silencieuses à dévisager la violence dressée comme un mur entre elles. José escalade cette paroi. « Pas toi aussi. » Trois mots de porcelaine pour parler de l'agression. La sienne et celle de Steph. La mère et la fille, maintenant unies par cette souffrance. « Ton visage, Steph. » Trois mots pour souligner ta fureur. Steph lui montre son poing gauche, gonflé et bleuté. « Je lui ai crissé une volée, main. » Sa mère devine la fierté dans son ton et lâche un rire agité. En temps tacite, elles prennent soin de l'histoire ainsi. À travers l'humour, la haine se décharge un peu. « J'ai tellement soif, maman, trouve-moi de l'eau. » José quitte la chambre. « Madame, excusez-moi, ma fille aimerait boire quelque chose. » L'infirmière revient avec un gobelet et une éponge. Elle sermonne Steph calmement. « La consigne est la même. Tu dois rester à jeun. Tu peux mordre dans l'éponge pour humidifier ta bouche. » Steph a l'air affligée et sa mère lui fait un clin d'œil sans être remarquée. En sortant, l'infirmière l'informe de la suite des choses. « Tes points de suture seront faits bientôt, t'es chanceuse. Le docteur Farouk est de service ce matin. C'est le meilleur plasticien en ville. »
Et le roman bascule très vite vers l'enquête. On ne peut plus décrocher. L'une des premières à rentrer aussi dans la chambre d'hôpital, c'est la détective. Mais très vite, ce qu'on comprend, c'est que cette histoire, elle ne commence pas en 2018. Il est arrivé quelque chose de très similaire à la mère de Stéphanie, c'est pour ça qu'elle dit « Oh non, pas toi », à la fin des années 90. Sauf que dans votre vraie vie aussi, Geneviève, il s'est passé la même chose. Est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs?
Cette violence-là, transgénérationnelle, est à la base de mon écriture aussi. L'injustice s'est répétée. En fait, ce qui est troublant, tant dans le roman que dans ma vie personnelle, c'est qu'une répétition de la violence, les scénarios sont très similaires. Et là, on comprend que ça ne peut pas être un simple fait du hasard, tout ça.
Votre mère a été agressée à domicile.
Exactement, en pleine nuit aussi. Tentative.
Et vous étiez là?
J'étais là, ma sœur aussi. On a été témoin de la peur de ma mère, surtout une fois qu'elle s'est défaite de l'agresseur. Donc, j'ai été habituée toute ma vie, j'ai été conditionnée à réagir à la menace. Et c'est ça qui, je crois, m'a sauvé la vie.
Vous étiez suivie par un thérapeute qui vous a dit d'ailleurs, « Non, mais ce qui est arrivé à votre mère, ça n'arrivera pas une deuxième fois. On ne peut pas vivre toujours dans la peur.
Ouais. »
C'est arrivé une deuxième fois.
Mais c'est vrai qu'on ne peut pas vivre 365 jours par année dans la peur. Parce que je crois que si je vis continuellement dans la peur, c'est l'agresseur qui a gagné. Et ce n'est pas ça que je veux. Je veux lui montrer que ma vie, elle continue.
Exactement, ça, c'est une enquête qui porte pas seulement sur un agresseur, mais sur cette mémoire qui se répète. Vous aviez le sentiment, en écrivant justement cette fiction, d'explorer quelque chose qui est presque inscrit dans les corps, dans les réflexes.
Oui. Oui, l'histoire, elle est écrite du point de vue de Steph. C'est elle qui mène sa propre enquête, qui cherche ses réponses. Le livre s'adresse à toi, l'agresseur. On le tutoie. Il y a une posture d'affront là-dedans, de mépris.
Il s'appelle
Toé, oui. Oui. Et c'est ça, on cherche les réponses. C'est très viscéral. Hein. C'est pas du point de vue des enquêteurs. On n'est pas là sur la scène à repérer les traces d'ADN, quelque chose comme ça, mais plus à remettre les morceaux de casse-tête en place pour comprendre ce qui a pu arriver jusqu'à ce qu'on identifie dans le roman un suspect principal et qu'on tente avec beaucoup d'haleine de le coincer, quoi.
Et ça permet en tant que lecteur de comprendre beaucoup de choses parce qu'on suit l'enquête policière, mais on suit aussi les notes de psychothérapie qui apparaissent tout au long du livre. D'un côté, on cherche un coupable, de l'autre côté, on essaie de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur du corps d'une victime. Je pense que c'est un roman qui va aider d'ailleurs beaucoup de victimes. Vous devez être surpris, je pense, des témoignages déjà que vous recevez.
Ah ouais, c'est très... Les gens sont généreux, beaucoup de bienveillance. Je m'attendais à certains trolls, à quelque chose de peut-être attaquant en contre-coup, mais non, les gens sont pleins de bienveillance, puis il y a des témoignages très touchants, notamment de femmes qui font face à la justice et qui comprennent qu'il y a des moyens alternatifs de se faire du bien.
Oui, parce qu'encore une fois, l'enquête, elle est toujours en cours, mais ouais. Elle n'a rien donné. L'agresseur de votre mère n'a jamais été retrouvé. Vous parlez d'un attentat transgénérationnel. Est-ce que écrire ce roman, c'est une manière finalement de dire que, ok, l'histoire s'est répétée, mais ça va s'arrêter là, et l'histoire, elle ne se taira plus.
Exactement, c'est pas la violence qui a gagné. Il y a tellement de mains tendues pour réparer. Aussi dans le livre, c'est ça, les personnages secondaires ont une place très importante. Steph est jamais vraiment seule pour traverser ça. Donc c'est de montrer que pour un individu qui veut faire tant de mal, il y en a combien pour faire du bien autour d'une victime, autour d'une survivante. Et c'est ça qui l'emporte finalement.
En parlant de choses qui vous aident à vivre, il y a cette chanson de Nina Simone.
Ouais.
On va entendre quelques notes. Je vais quand même raconter un peu aux auditeurs. Petite, vous vouliez être écrivaine. Mais bon, vous attendiez quand même une lettre de Poudlard en mettant votre réveil à 1h du matin pour lire Harry Potter en cachette. Est-ce que la petite fille que vous étiez, qui voulait devenir écrivaine, qui est poétesse ouais. aujourd'hui, est-ce qu'elle reconnaîtrait la femme et l'autrice que vous êtes devenue aujourd'hui?
J'aurais pas imaginé traverser tout ça. C'est un passage à douleur, mais ça m'a quand même permis de réaliser un rêve d'être écrivaine, un rêve qui était devenu poussiéreux parce que c'est pas les études que j'ai suivies. Donc...
Oui. Ben oui, parce qu'avant ce roman, il y a eu de la poésie, ça s'appelle Survivace, que vous aviez publié, des textes où la langue portait déjà sur la survie, la réparation. On dit souvent que la poésie peut sauver. Aujourd'hui, vous êtes aussi porte-parole du Centre de services de justice réparatrice et conférencière. La justice réparatrice, elle aussi, elle cherche à transformer la blessure plutôt qu'à seulement la punir. Et ben finalement, on a l'impression que la poésie et la justice font le même travail, redonner du pouvoir à la vie. Est-ce que ce ne serait pas une forme de magie que vous avez en vous, finalement? Il n'y avait pas besoin d'aller à Poudlard.
Peut-être que oui. Je pense que la littérature a ce pouvoir-là. Tu sais, j'ai un collègue écrivain au Québec, David Goudreau, qui a édité le livre, qui m'a beaucoup accompagnée là-dedans et qui me disait, dans des moments où je devais m'éloigner de ma vérité, être vraiment dans la fiction, que pour moi, c'était un deuil, mais il me disait qu'au final, le lecteur, dans 10 ans, il ne va pas se rappeler l'action de la page 13 du roman, mais il va se souvenir de l'émotion qui a porté, qui a ressenti au moment de sa lecture, et c'est ça qui va survivre à tout ça. Donc, je pense que c'est ça la magie de la littérature, c'est de pouvoir partager ensemble des expériences humaines qui sont traumatisantes, mais qui deviennent finalement lumineuses au bout du compte.
Vous avez une dédicace ce matin au micro de France Inter.
Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, le lectorat français, les lectrices, les lecteurs qui vont probablement m'accueillir à bras ouverts parce que déjà, je suis bien reçue ici. Ça me fait plaisir de venir à votre rencontre.
On est pendu à vos lèvres, Geneviève. Je vois Charline qui est bouleversée en vous écoutant.
Ouais. C'est un sacré moment que j'ai vécu avec Geneviève Rioux, ça s'appelle Même pas morte. C'est aux éditions Stock. Merci.
Oui.
Merci. Et c'est la fin du magazine de la Grande Matinale. On continue avec vous, Ali Rebéi, juste après les infos.
Bonjour à toutes et à tous. Et bien ce matin avec Philosophie Magazine. Comment tout recommencer dans sa vie, en amour ou au travail? Racontez-nous comment vous avez changé de vie, sans regret, dans tous les domaines de votre existence, au 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de l'émission et l'appli Radio France.
À tout à l'heure.